Béni soit le Seigneur pour sa grâce, son amour et cette bonne nouvelle que nous voulons partager cet après-midi. Et pour cela, nous allons ouvrir la parole dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit : Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Eudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et allons ensemble, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Voilà, nous voyons dans ce passage que nous avons lu, dans ce dernier, la conversion de Saul. Ce moment où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, où il a réalisé que Jésus-Christ était vivant. Ce passage nous est pourtant une expérience que Saul a faite bien après, des mois après la crucifixion de Jésus-Christ. Cela a été écrit même bien des années après la crucifixion de Jésus-Christ. Pourtant, dans ce passage, vous l'avez lu comme moi, nous voyons Jésus-Christ intervenir et s'adresser à Saul, l'interpeller, l'arrêter, l'éclairer, afin qu'il puisse réaliser la vérité, afin qu'il puisse réaliser qu'il était dans l'erreur et qu'il puisse se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Et si cet après-midi nous sommes là, nous chantons ces cantiques, nous les partageons, nous avons ce message dans nos cœurs, c'est parce que nous avons fait cette rencontre nous aussi avec Jésus-Christ. Et comme disait tout à l'heure Lucas, je ne ferai venir personne sur l'estrade cet après-midi, mais beaucoup cet après-midi au milieu de nous pourraient témoigner, eux aussi, de leur rencontre, de la même manière que Saul a rencontré Jésus-Christ. Plusieurs ici présents pourraient témoigner de leur rencontre bien réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons le témoigner, nous voulons en parler, nous voulons donner cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et Saul, c'est un prénom qui va lui être donné par la suite dans le Nouveau Testament, Saul, Paul. Je vais essayer de rester à Saul pour que tout le monde comprenne bien. Saul a pu rencontrer, faire aussi cette rencontre réelle et réaliser que Jésus-Christ était vivant. Mais avant ça, Saul n'était pas du tout avec Dieu. Saul était loin de Dieu. Et c'est étonnant parce que Saul était pourtant un homme religieux, un homme qui croyait en Dieu, un homme qui était sérieux, qui était engagé, un homme qui était intelligent, un homme qui était zélé pour la religion juive, la religion de ses pères, c'est ce qu'il va dire. Il avait un zèle même excessif à l'égard de cette religion, un zèle qui l'a poussé à aller jusqu'à approuver, donner son approbation à l'égard du premier martyr chrétien, Étienne, donner son approbation alors qu'il était lapidé. Ce zèle excessif va l'amener à aller jeter des chrétiens en prison, à aller les arrêter. Ce zèle va l'amener sur ce chemin de Damas, jusqu'à aller avec ses lettres pour arrêter ces hommes, ces femmes qui s'étaient tournés vers le Seigneur Jésus-Christ et pour les amener liés à Jérusalem. Ces disciples du Seigneur, les disciples que nous avons vus dans ce passage que nous avons lu dans Actes chapitre 5, où nous voyons justement ces disciples qui eux, n'avaient pas du tout d'armes pour se défendre, n'avaient aucune violence, ne revendiquaient aucune méchanceté, mais avaient un message. Un message d'amour, un message simple, un message clair, une bonne nouvelle, un message d'amour qui vient de Dieu. Ils n'avaient simplement que ça et ils étaient persécutés à cause de ce message, à cause de cette vérité qu'ils voulaient proclamer, partager. Et nous voyons Pierre et les apôtres, comme nous l'avons lu dans Actes 5, partager cette bonne nouvelle. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël et à tout le monde, pour donner à Israël, mais à l'humanité entière et à chacun d'entre nous aujourd'hui, ici présents, la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et par la suite, on va voir Gamaliel. Gamaliel se levait à ce moment-là, se tournait vers tous ces hommes religieux, ces hommes qui étaient loin de Dieu, et il va leur donner une parole de sagesse, une parole remplie de sagesse. Il va leur donner de réaliser qu'il y a eu certains hommes qui se sont levés, qui ont fait certaines entreprises, qui ont commis certaines choses, et que ces hommes, par la suite, ont été tués, que leurs œuvres se sont arrêtées. Mais il va dire à l'égard des disciples de Jésus-Christ, il va leur dire, si cette œuvre, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et Gamaliel était, on l'a lu, un docteur de la loi, un enseignant. Il était celui qui avait enseigné Saul. Et cette parole que Gamaliel a pu donner à ce moment-là, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu, Saul, d'une manière ou d'une autre, a très certainement pu l'entendre. D'une manière ou d'une autre. Saul était investi dans le Sanhédrin, il est très fort probable qu'il était là à ce moment-là, mais la Bible ne nous précise pas, alors on ne peut pas l'affirmer, mais on sait que Gamaliel était très proche de Saul, et qu'il lui enseignait justement la foi en Dieu, qu'il lui avait enseigné la marche qu'il devait avoir et prendre. Et donc très certainement que Saul a pu entendre cette parole. Ne prenez pas le risque, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Mais Saul n'a pas pris garde à cette parole. Saul était, lui, convaincu qu'il marchait dans la vérité, convaincu qu'il obéissait à Dieu, qu'il servait Dieu. Et Saul a pris la décision de combattre contre les disciples du Seigneur. Il y a un proverbe dans la Bible qui nous dit, dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Saul était convaincu qu'il obéissait à Dieu, convaincu qu'il était agréable à Dieu. Mais Saul était loin de Dieu. telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et cet après-midi, je ne sais pas, je ne connais pas vos convictions, je ne sais pas avec quelles convictions vous êtes venu dans ce lieu. Mais il y a un message qui est là pour chacun d'entre nous. Et ce verset doit nous interpeller. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Saul était convaincu, persuadé qu'il était sur le bon chemin, mais il s'égarait, il était dans l'erreur. Et Jésus-Christ est venu pour l'éclairer, lui donner de réaliser une deuxième fois. Il aurait pu s'arrêter à cette parole que Gamaliel avait prononcée, « Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu ». Il aurait pu s'arrêter là, ne pas prendre ce risque, mais il a choisi d'aller dans cette voie, dans cette erreur. Et Jésus-Christ, dans son immense amour, dans sa grâce, est venu se révéler à Saul. Il lui a donné d'être éclairé sur ce chemin. Et lui a posé une question en l'interpellant. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Est-ce que cette parole s'adressait seulement à Saul ? Cette parole, elle est pour chacun d'entre nous. Pourquoi me persécutes-tu ? Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Cette parole, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que il n'est pas forcé de faire comme Saul et d'être un persécuteur de l'Église, de mettre des chrétiens en prison, d'approuver leurs meurtres, comme nous l'avons lu, de respirer la menace et le meurtre pour combattre contre Dieu. Il n'y a pas besoin d'en arriver jusque-là. Quand on ferme notre cœur à Dieu, quand on refuse ce message, cette bonne nouvelle, quand on choisit de mettre Dieu de côté dans notre vie, quand on choisit de diriger notre vie par nous-mêmes, de ne faire aucun cas de Dieu, de le mépriser, de le négliger, de le rejeter, on prend cette attitude, on prend ce risque de combattre contre Dieu. Il n'y a pas besoin d'en arriver jusqu'au meurtre, à la menace comme Saul. Mais quand il y a simplement ces choses dans nos vies, quand il y a le rejet de Jésus-Christ, eh bien c'est une forme de prendre le choix de combattre contre Dieu. Et la parole est claire, elle nous amène à réaliser le grand danger, à rester dans cette position. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce pour Saul, afin qu'il puisse réaliser ses erreurs, afin qu'il puisse réaliser que le chemin sur lequel il était un chemin qui menait à la mort, un chemin qui menait à l'égarement, un chemin qui menait à la perdition. Et le Seigneur, de la même manière, veut nous éclairer. Telle voie paraît droite à un homme, et son issue, c'est la voie de la mort. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas 36 000, il n'y a qu'un seul chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ le dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et cet après-midi, si tu réalises que tu as pris un autre chemin, que tu as eu dans ta vie d'autres convictions, que celle de placer ta foi en Jésus-Christ, que celle de te tourner vers Dieu au travers de Jésus-Christ, réalise que tu es sur ce chemin qui mène à la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Aujourd'hui, plusieurs personnes prennent ce risque dangereux, terrible, de combattre contre Dieu à cause de toutes sortes de raisons qui ne sont pas valables. Saul, lui, agissait par ignorance. Il était dans l'ignorance, il était convaincu, mais il était dans l'erreur. Aujourd'hui, certaines personnes prennent le choix de se fermer à Dieu à cause parfois d'épreuves, de souffrances, de difficultés, la perte d'un être cher, la maladie, le chômage, la pauvreté, les difficultés de la vie quotidienne. Quand certains regardent l'état de ce monde, plusieurs disent « mais si Dieu existait ?» Et on entend souvent cela, si Dieu existait, pourquoi permet-il cela? Pourquoi permet-il la famine? Pourquoi les guerres? Pourquoi toutes ces atrocités? Un homme dans la Bible a vécu de grandes souffrances. Il a perdu beaucoup de choses qui lui étaient très chères. Sa famille, ses enfants sont décédés. Il a perdu ce qu'il possédait, son travail. Il en est même arrivé à un point, au point de même perdre son épouse. Dans son couple, c'était compliqué. Cet homme, c'est Job. Et dans ses épreuves, Job s'est posé beaucoup de questions. Mais à aucun moment donné, il n'a fermé son cœur à Dieu. Et dans ses épreuves, il a même pu dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Et par la suite, quand on voit cette vie que Job a menée, on voit beaucoup de questions dans ce livre, beaucoup de questions que Job a pu se poser. Et à la fin de ce livre, on voit Dieu venir vers Job pour lui parler, pour l'éclairer. Et Dieu va venir vers Job en lui posant toutes sortes de questions. C'est étonnant, Dieu va s'adresser à Job, alors que Job se pose des questions, Dieu va venir vers lui en lui posant des questions sur toutes sortes de domaines, par rapport à ce monde, cet univers. Et on voit ces questions à partir du chapitre 18, on voit au verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ?» Verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Verset 16, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Verset 18, as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Pour y continuer, Dieu va poser beaucoup de questions à Job comme cela, sur toutes sortes de domaines, sur ce monde, cet univers, le fonctionnement que Dieu a mis en place. Chapitre 39, verset 1er, « Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère ? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés ? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? » Toujours chapitre 39 au verset 29. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin des regards, ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Dieu a voulu faire comprendre à Job à ce moment-là. Job qui était terriblement éprouvé, Job qui était dans le malheur, dans la souffrance, et qui était dans toutes sortes de questions. Dieu va lui poser ces questions pour l'amener à réfléchir et pour l'amener à comprendre que les pensées de Dieu sont au-delà des siennes, que ses voies sont au-delà des siennes et que ce que Dieu fait, eh bien, dans son ensemble, que c'est impossible à l'homme de le comprendre, de tout saisir, que l'homme est limité. que l'homme ne peut tout comprendre. Et c'est ce que Job va finir par comprendre et pas saisir. À la fin de toutes ces questions, Job va pouvoir parler à Dieu et lui dire « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je ? Voici, je suis trop peu de choses. » Job a réalisé qu'il était limité, qu'il était incapable de tout comprendre, qu'il ne pouvait tout saisir. Et par rapport à ce monde, je reviens à ces choses qui peuvent amener certains à prendre cette position de combattre contre Dieu, en se fermant à Dieu, en s'éloignant de Dieu, en n'obéissant pas, en ne remettant pas son cœur entre les mains de Dieu. Ces raisons qui peuvent être là, ces questions qui peuvent être là. Dieu veut nous amener à comprendre que l'on ne peut pas saisir pleinement tout ce qu'il fait. Mais la Bible nous dit que ce qu'il fait est parfait et que tout ce qu'il fait, il fait toute chose bonne en son temps, que sa volonté, elle est bonne, agréable, parfaite. Il est le Dieu vivant et vrai, il contrôle tout, il est au-dessus de tout. Et nul ne peut tenir en face de lui, nul ne peut lui résister. Et c'est ce que Job a fini par réaliser. Il a pu réaliser que Dieu peut tout et que nul ne peut s'opposer à ses pensées. Cet après-midi, réaliser qu'on ne peut pas s'opposer à Dieu et qu'il ne faut surtout pas se maintenir dans cette position, dans cette attitude. Parce que cela conduira à cette perdition éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, dans son immense amour, ne veut pas que nous périssions, mais veut que nous soyons tous sauvés. Il veut que nous puissions tous parvenir, oui, à la connaissance de la vérité, à la repentance. Et nous le voyons dans ce passage venir aussi vers Saul et l'interpeller, non pas pour le condamner. Quand il l'a interpellé, il n'y a eu aucune parole de condamnation, de jugement, mais une question. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il l'a amené à réaliser que Jésus-Christ était ressuscité, qu'il était le Dieu vivant et vrai. Oui, Jésus-Christ est ce roi serviteur, comme nous l'avons chanté. Un roi qui est venu sur cette terre. Dieu fait homme pour nous servir, donner sa vie en rançon pour chacun d'entre nous, mourir en sacrifice. Il a volontairement donné sa vie et ce message, c'est un message d'amour. C'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. À la croix, il a payé le prix de nos péchés. Il a donné sa vie afin que nous puissions recevoir de Dieu le pardon de nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu, en paix avec Dieu, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Il a été persécuté pour cela. Il a été méprisé. On l'a rejeté, abandonné des hommes. Il a accepté qu'on lui mette une couronne d'épines sur la tête. Il a accepté qu'on perce ses mains sur une croix. Il a accepté qu'on perce ses pieds. Par amour pour chacun d'entre nous, volontairement, il a accepté que son côté soit percé. Le Dieu vivant, le Dieu qui s'est fait homme est venu sur cette terre pour nous chercher et nous sauver. Il a été persécuté, il a accepté la persécution volontairement, afin que nous ne soyons pas persécutés. Persécutés par le poids du péché sur cette terre, persécutés par la culpabilité, persécutés par les angoisses, le tourment, la peur, les inquiétudes de la vie, de tous les jours, de tout ce qui peut se passer, persécuté pour l'éternité. Jésus-Christ a été persécuté afin que nous ne soyons pas persécutés. Alors ce soir, cet après-midi, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne restez pas dans cette position de fermer votre cœur à Dieu, mais ouvrez-lui votre cœur. Dieu veut répandre sa grâce, son amour dans votre vie, vous restaurer. Vous sortir des ténèbres, vous attirer à son admirable lumière. Pour cela, il a tout accompli, il a payé le prix. Saul a pu réaliser cela, faire cette expérience. Et il a pu faire cette première prière en se tournant vers Jésus-Christ. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Cet après-midi, le message est clair. Le Seigneur nous appelle à nous repentir. Voilà ce qu'il veut que nous fassions. Il nous appelle simplement à nous repentir. Tu as pu peut-être être dans l'ignorance jusqu'à présent. Saul était dans l'ignorance, il agissait dans l'ignorance. Et peut-être que tu as agi jusqu'à présent dans l'ignorance. La Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais qu'il annonce maintenant en tout lieu à tout homme qu'ils aient à se repentir. Peut-être que tu agis par ignorance, sans savoir, et que tu as pris cette position de combattre contre Dieu. Repens-toi, demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Réalise que tu n'es pas sur ce chemin qui mène à la vie. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Crois au Seigneur Jésus-Christ, à cette bonne nouvelle, à ce qu'il a accompli pour toi à la croix. Et tu verras le Seigneur agir puissamment dans ta vie. Tu verras le Seigneur se manifester. Et Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est toujours le même. Il ne change pas. Il est le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, un Dieu de paix, d'espérance, d'amour. Et il agit encore aujourd'hui. Et quand on crie à lui, quand on se tourne vers lui, quand on l'accepte, il intervient, il agit dans nos vies. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, répondre à tes besoins. Mais il t'appelle pour cela, à te détourner de tes mauvaises voies et à te tourner vers lui. À sortir de cette position que tu as pu avoir jusqu'à présent et à ne pas te maintenir dans cette attitude de combattre contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. J'aimerais qu'on prie un instant. Cet après-midi, oui, le Seigneur nous appelle à prendre une décision. Dans son immense amour, dans sa grâce, il nous appelle à changer de vie. Et cet après-midi, il t'appelle. Oui. Et il veut que cet après-midi, tu ne repartes pas de ce lieu sans avoir saisi cette grâce, sans avoir saisi son amour, sans avoir saisi cette restauration de ta vie, de ton cœur. Mais il ne te forcera pas. Et il y a un choix qui t'appartient. Cet après-midi, prends cette décision de t'en remettre à Dieu, de tout remettre entre ses mains. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, merci parce que tu parles encore aujourd'hui, merci parce que tu nous éclaires, merci parce que ta parole est toujours la même, parce que ce message est digne d'être reçu, parce que, Seigneur, c'est la vérité. Et nous voulons, Seigneur, cet après-midi, ne pas te négliger, ne pas te rejeter, mais ouvrir nos cœurs à ce message, Seigneur, à ta présence. Je te prie vraiment, Seigneur, dans ces moments de bénir tous ceux qui, Seigneur, auraient pu jusqu'à présent être séparés de toi. Et je te prie d'intervenir maintenant dans les vies, dans les cœurs, afin que, oui, il y ait cette lumière qui brille, qui jaillisse, comme tu as pu le faire pour Saul. Fais-le maintenant par ton esprit, dans les vies, dans les cœurs. Tu es celui qui convainc, tu es celui qui restaure, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui délivre, tu es celui qui transforme, tu es, Seigneur, le Tout-Puissant, tu peux tout. Seigneur, et oui, dans cet après-midi, nous ne voulons pas rester dans une position qui serait contraire à ce que tu veux. Nous ne voulons pas sans cesse nous poser des questions, mais réaliser, oui, que nous sommes bien limités, mais réaliser ta grâce, réaliser cet immense amour. Je te prie encore de bénir chacun ici présent, afin que nul ne se prive de cette grâce. Au nom de Jésus. Amen.